C'est le journal de Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Le mouvement anti-pass sanitaire grossit, plus de 160 000 personnes dans toute la France hier, soit 50 000 manifestants de plus par rapport à la semaine dernière. Le Sénat vote mais modifie le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. Les débats devraient encore durer en commission aujourd'hui. Toutefois, les annonces présidentielles du 12 juillet dernier font déjà effet, notamment dans le secteur du tourisme. Et puis à suivre, les opposants à Jair Bolsonaro de nouveau dans la rue au Brésil et évidemment les Jeux Olympiques de Tokyo avec les petits nouveaux, le surf et le skate. Ce sera en fin de journal et avec vos invités.
Effectivement, à 8h20, avec des sports tout nouveaux au programme, le surf, le skate, le karaté, l'escalade, vous entendrez ces sportifs dont les frères Mawem ou la karatéka Alexandra Ferracci, enfin admis dans le club olympique. Ce sera dans 20 minutes.
France Inter.
Ils étaient hier 50 000 de plus par rapport à la semaine dernière, 160 000 manifestants en tout contre le pass sanitaire et la vaccination contre le Covid, quelques violences contre des policiers et des journalistes à déplorer. Le ministre de l'Intérieur rapporte 9 interpellations au total, 168 rassemblements ont eu lieu. Rémi Brancato, ce mouvement qui semble prendre de l'ampleur est réparti sur tout le territoire.
Les anti-pass sanitaires ont fait entendre leur voix dans toutes les grandes villes, mais aussi dans de nombreuses villes moyennes, 160 communes concernées en tout. À Paris, on a certes dénombré 11 000 manifestants, mais les contestataires sont répartis un peu partout sur le territoire avec des cortèges modestes mais nombreux. 400 personnes à Dunkerque dans le Nord, 800 à Aubenas en Ardèche, 500 à Périgueux ou encore 1000 à Foix dans l'Ariège et 3000 à Pau. Dans le sud-est, par exemple, les grandes villes ont fait le plein. 5000 personnes à Montpellier, 6000 à Nice, plus de 4000 à Marseille. Mais des rassemblements sont aussi apparus sur la côte. 600 personnes près de la plage de La Ciotat notamment, car les zones touristiques sont concernées avec des vacanciers qui semblent avoir pris le temps de manifester. Les cortèges prennent en tout cas de l'ampleur, 4 fois plus de manifestants par exemple à Quimper, où ils étaient 3000 hier. Et comme à Paris, le même mot d'ordre revient régulièrement, l'appel à un nouveau rassemblement pour samedi prochain.
Rémi Brancato est dans les cortèges des participants de différents horizons. Il y a des gilets jaunes, des anti-vaccins, mais aussi des personnes très fâchées contre le pass sanitaire et seulement le pass sanitaire. Benjamin, père de famille, est sorti dans les rues de Quimper hier.
On est en train de piétiner les valeurs de notre République. Le pass sanitaire en lui-même, si vous voulez, pourquoi pas, j'en sais rien. La manière dont c'est imposé aux Français, le calendrier n'est pas tenable. Moi, si je veux me faire vacciner, je ne suis pas vacciné avant mi-septembre. Comment je fais? Ça veut dire que je suis un exclu de la société tout le mois d'août? Que je ne peux plus vivre normalement tout le mois d'août? Après, le pass sanitaire, on peut rediscuter, mais on fait le forcing à l'Assemblée nationale, on fait revoter des lois la nuit à 5h du matin. Il y en a marre. J'ai une petite fille qui a 2 ans et demi. Quelle France je vais lui laisser? Quelle France je vais lui construire? C'est pas une problématique de vaccin, de machin. Moi, j'ai des aïeux qui sont tombés et des amis qui sont tombés pour la France, qui sont morts pour la France pour défendre ces valeurs qu'on piétine en un discours. Là, c'est très, très grave ce qui arrive là.
Voilà, Benjamin, hier dans les rues de Quimper et dans le même temps au Sénat, le projet de loi pour l'extension du pass sanitaire a été adopté cette nuit pour un texte largement modifié. D'ailleurs, les sénateurs retirent l'obligation du pass sanitaire pour les mineurs notamment et le limitent au seul lieu clos. Prochaine étape, la commission mixte paritaire tout à l'heure à 15h.
Et avant même l'adoption définitive du projet de loi, les effets du pass sanitaire se font déjà sentir dans le secteur du tourisme.
Oui, car les seules annonces présidentielles du 12 juillet ont suffi à changer la donne. On s'aperçoit que certains touristes ont modifié leur plan. Ils ont par exemple tourné le dos au camping pour se rabattre sur les gîtes où les contraintes sanitaires ne sont évidemment pas les mêmes. Reportage de Lauriane Navarre.
Par exemple à Saint-Julien-Molin-Molette, Luc Cavit tient le camping du Val du Ternay. 3 hectares en pleine nature, 50 emplacements. Mais très vite, après les annonces d'Emmanuel Macron...
Tout le monde s'est barré, le camping s'est vidé. Le mois d'août est annulé, tout le monde annule parce qu'ils n'ont pas les 2 vaccins, plus le délai après le deuxième vaccin. Donc on va dans le mur. Il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a plus personne.
Le gérant du camping n'a jamais connu une saison pareille. Drôle d'ambiance, vécue aussi par Chantal, qui vient ici depuis des années.
Ah bah oui, il y a moins de monde, quoi, parce que les gens, ils ont peur aussi. Hein. Ça dépend, il y a la maladie, il y a tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut pour habiter, quoi.
Car les campings sont soumis au pass sanitaire. Les vacanciers partagent notamment la piscine, les sanitaires, alors que dans les gîtes, c'est le contraire. Chacun a son espace et la saison est radicalement différente. Karine Bertrand, la directrice des gîtes de France de la Loire.
Ah, on est au beau fixe puisque les 3 semaines de juillet là, qui sont passées, on est supérieur à l'année dernière. Pour la semaine prochaine, il nous reste 8 hébergements sur le département. On est au-dessus de, ou équivalent pour le moment à ce qui s'était passé réellement l'année dernière.
À tel point que de plus en plus de gîtes ouvrent dans le département pour répondre à la demande.
Lauriane Havard, Emmanuel Macron a dans le même temps entamé une visite de 4 jours en Polynésie française. Le président est à Tahiti pour commencer. Il visite notamment un hôpital aujourd'hui. Il prévient, l'épidémie repart. 22 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. L'incendie déclenché hier près de Moux dans l'Aude a déjà ravagé 850 hectares de végétation. Il a également provoqué des coupures d'électricité en France, mais aussi au Portugal et en Espagne. Plus de 700 pompiers sont mobilisés.
À l'étranger, des milliers d'opposants à Jair Bolsonaro à nouveau mobilisés au Brésil.
Depuis fin mai, c'est déjà la 4e journée de manifestation contre le président, très critiqué par la gauche et les syndicats sur sa gestion de la crise du coronavirus. Le Covid a fait 500 000 morts au Brésil. Si certains manifestants espèrent la destitution de Jair Bolsonaro, il s'agit surtout de commencer à exercer une pression politique et sociale à un an de la présidentielle. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini.
3 semaines après la dernière mobilisation, ils sont à nouveau plusieurs milliers dans les rues de tout le Brésil, mais ce n'est toujours pas un raz-de-marée. À Rio de Janeiro, ils sont même un peu moins nombreux. Pas de quoi, cependant, entamer la détermination de Cairo.
Moi et mon collègue, on est dans la rue depuis les premières manifestations contre Bolsonaro, depuis en fait que l'on se sent un peu mieux face au virus. On veut protester dans la rue et on prétend continuer jusqu'à ce que le gouvernement chute.
Beaucoup doutent malgré tout de la possibilité de faire tomber le président dans le contexte actuel, mais comme Eduardo, ils insistent sur l'importance de venir manifester.
L'idée, ce n'est pas de le faire tomber parce qu'il y a tout un long processus légal pour le destituer, ça prendrait beaucoup de temps. Mais au minimum, il faut lui mettre la pression pour qu'il prenne des mesures en faveur de la population, qu'il commence finalement à se comporter comme un vrai président.
Grâce à de nouvelles alliances politiques, Jair Bolsonaro semble avoir su se protéger de tout risque de destitution. Pourtant, les manifestants ne se démobilisent pas et d'autres grandes marches du même genre sont déjà prévues en attendant les élections présidentielles de 2022. Ils espèrent fragiliser au maximum un président en perte de vitesse. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
On reste à l'étranger, mais on change de continent. On part tout de suite au Japon. La direction de Tokyo pour les Jeux Olympiques, des jeux plus que jamais entre tradition et modernité avec des grands classiques, l'escrime, le judo, le basket à suivre aujourd'hui, mais aussi une grande nouveauté, le skateboard. Farida Noir, vous avez suivi pour France Inter la première finale de skate de l'histoire des Jeux. Il y avait 2 Français, Vincent Milou et Aurélien Giraud. Ils étaient pourtant bien partis, mais pas de médaille pour eux.
Les tricolores a donc la première journée de cette compétition de skate. Première olympiade de la discipline. Vincent Milou et Aurélien Giraud avaient pourtant brillamment réussi leur qualification. Aurélien Giraud était même en tête des finalistes. Mais la finale s'est beaucoup moins bien passée pour les 2 Français. Plusieurs chutes, des figures ratées au bout de la rampe de cette épreuve de street. Et sous un soleil de plomb, Vincent Milou est 4e au pied du podium. Mais il ne veut garder que le positif de cette compétition.
Un bon moment. Je retiens un très bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment, je me suis éclaté, j'ai fait ce que je voulais faire, plus ou moins. Et puis je suis un peu déçu d'être 4e forcément, mais au final là ça importe peu. Je me suis tellement fait plaisir et j'espère que les gens l'ont ressenti, du coup c'est tout ce qui comptait quoi, pour moi. C'était dur quoi, c'était vraiment chaud quoi. Et puis, tu le sens, je perdais un peu en puissance, c'est pour ça que je tombais dans mon run. J'aurais fait mes runs, je pense que j'aurais été sur le podium. Pour nous, les Jeux Olympiques, les anneaux, tout ça, c'est un peu à l'opposé de ce qu'on fait et notre mentalité. C'est un peu bizarre d'être ici, mais c'est quand même grandiose et ça s'est super bien passé. On a tous passé un bon moment, c'est tout ce que je retiens. C'était quand même super bien, c'était vraiment cool.
Aurélien Giraud, lui, a fini 7e.
Reportage de Farid Anouar. Voilà, pas de médaille pour nos deux Français en skate, pas de médaille non plus pour Yasora Tibus, éliminée en huitième de finale du Fleuret et de l'escrime. C'est une énorme déception pour elle. Elle envisageait évidemment la médaille d'or. On a une chance en revanche en judo avec Amandine Bouchard qui est en demi-finale des moins de 52 kilos. Voilà, on a parlé du skateboard, l'une des grandes nouveautés de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Une autre nouveauté démarre aujourd'hui, le surf. Les épreuves se déroulent sur la plage de Tsurigasaki. J'espère que je le prononce bien. Jérôme Val, bonjour. C'est au sud-ouest de Tokyo. Alors, on connaît des grands noms du surf comme l'américain Kelly Slater, un peu moins le brésilien Gabriel Medina. Medina, pourtant, c'est une véritable star.
Exactement, un demi-dieu même au Brésil, partout où il va avec sa planche, Gabriel Medina attire les foules en termes de popularité. Ben seul Kelly Slater, la légende au crâne chauve, fait mieux, mais l'Américain n'est pas qualifié pour ces Jeux. Le Brésilien, suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, lui, est bien au Japon et sera le surfeur à suivre. Il s'est d'ailleurs qualifié ce matin pour les huitièmes de finale sur cette vague de Tsurigasaki au sud-ouest de Tokyo. Lui, le grand ami des stars, il est copain avec le footballeur du PSG Neymar. Il multiplie les pubs, il a même un jeu sur mobile à son nom. Et en 2015, le Time Magazine le classait parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Très croyant, il fait une prière à chaque fois avant de rentrer dans l'eau. Gabriel Medina est aussi une personnalité clivante. Beaucoup le considèrent comme arrogant, souvent à la limite vis-à-vis de ses concurrents. Mais comme le résume son beau-père, il n'est pas là pour se faire des amis et on ne peut pas lui donner tort. Medina, qui a démarré le surf à l'âge de 9 ans grâce à un ami, a son palmarès qui parle pour lui.
Et à 17 ans, Gabriel Medina est le surfeur le plus doué de sa génération, Jérôme.
Oui, double champion du monde en 2014 et 2018. Il domine encore le circuit cette année avec déjà 5 finales en 6 manches. Gabriel Medina est à l'aise sur tous les sites, les vagues notamment les plus impressionnantes. La mythique Teahupo'o de Tahiti, là où auront lieu les épreuves de Paris 2024, ou la Pipeline à Hawaï. Déjà quand il était junior à la fin des années 2000, lors d'une épreuve à Osgore, il avait tout fait, toutes les figures possibles et imaginables. Les juges lui avaient attribué un 20 sur 20, note rarissime, des performances qui ne lui ont pas fait tourner la tête parce qu'à 27 ans, Gabriel Medina vit toujours à São Sebastião, la ville sur le littoral au sud du Rio où il est né. Et chez les Medina, Raphaël, le surf est une affaire de famille. Sofia, la petite sœur âgée de 16 ans, est déjà championne du Brésil.
Merci Jérôme Val qui nous fait donc découvrir Gabriel Medina, double champion du monde à 27 ans bien évidemment et pas à 17. Voilà.
Merci Raphaël Del Volvé.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
La météo avec Jean-Pierre Hameau.
Ce matin, prévoyez un temps maussade sur une grande moitié ouest du pays, avec par moments des averses un peu plus marquées de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais en passant par la région parisienne. En allant vers l'est, le ciel sera plus lumineux après la dissipation naturellement des brouillards présents au lever du jour. En revanche, le soleil va briller du golfe du Lion à la vallée du Rhône. Le ciel sera laiteux entre PACA et Corse. Cet après-midi, le temps restera instable avec des averses orageuses au nord de la Loire et jusque vers la région Grand Est, des orages aussi sur tous les massifs de l'est, un ciel gris sur les Pyrénées. Dans les autres régions, vous aurez d'assez belles éclaircies entrecoupées de courtes averses. Vous profiterez d'un bon ensoleillement entre le Languedoc-Roussillon, région PACA et la Corse. Et puis les maximales évolueront entre 21 et 27 degrés. Comptez 30 à 34 degrés près de la Grande Bleue.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.